Fahrenheit 451, l'émission littéraire des livres qu'ils n'ont pas encore brûlés. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Fahrenheit 451. Alors vous le savez sûrement, ou sinon ça veut dire que vous vivez dans une grotte, mais en 2017 il y a les élections présidentielles et les élections législatives. Alors Micro-Rebelle n'échappe pas à cette actualité de plus en plus présente et on a décidé de parler politique mais à notre manière. Et Fahrenheit 451 n'échappe pas à cette règle. Et on va aborder pour le mois de mars et le mois d'avril des livres qui abordent la politique. Et pour commencer, pour ce mois de mars, j'ai décidé de vous présenter un ouvrage peu connu de Quintus Cicéron. Alors Cicéron, ça vous dit sûrement quelque chose. Vous pensez à son frère, le célèbre orateur Marcus Tullius Cicéron. Mais là, c'est Quintus Cicéron, son frère cadet, qui lui a écrit un jour un petit manuel de campagne électorale. En gros, un ouvrage, c'est une lettre plutôt, pardon, une lettre. Il lui a écrit une lettre dans laquelle il lui expose les différentes manières de gagner une élection. Et quoi de plus en raccord avec l'actualité qu'une lettre qui explique à quelqu'un comment gagner des élections. C'est cet ouvrage que je vais vous présenter ce mois-ci, Petit manuel de campagne électorale de Quintus Cicéron. Alors, j'ai l'édition éditée par Arléa, c'est traduit du latin par Jean-Yves Borio. Et bien sûr, on n'échappe pas à la tradition de Micro-Rebelle de défendre les musiques libres. Et comme vous le savez, sur Fahrenheit 451, on passe à chaque fois des morceaux de musique libre. Eh bien, ce mois-ci, ce sera l'univers très jazz de Ash Turner, un contrebassiste australien qui va nous accompagner avec Cicéron. Voilà, eh bien, j'espère que vous allez apprécier cette émission. Et je vous retrouve le mois prochain pour un deuxième numéro de Fahrenheit 451, c'est Paul et Éthique. Tu disposes sans doute de tous les moyens de réussite que l'intelligence, l'expérience et le travail scrupuleux peuvent donner aux hommes. Cependant, je ne pense pas qu'il soit indigne de notre mutuelle affection de coucher par écrit et de t'adresser les réflexions qui me viennent, jour après nuit, quand je pense à ta candidature. Ce n'est pas pour t'apprendre quoi que ce soit de nouveau, c'est pour tracer une vision d'ensemble, rationnellement ordonnée, d'idées qui, dans la pratique, apparaissent isolées et confuses. Malgré la valeur de tes dispositions naturelles, il serait bon qu'en cette affaire de quelques mois, elle consente à céder le pas à l'artifice. De quelle ville s'agit-il? À quoi es-tu candidat? Qui es-tu? Il faut qu'en descendant au forum, chaque jour ou presque, tu te dises « Je suis un homme nouveau. Je suis candidat au consulat. C'est de Rome qu'il s'agit. » La nouveauté de ton nom, c'est surtout ta gloire d'orateur qui va la faire oublier. C'est un talent qui a toujours attiré la considération et on ne peut lui tenir pour indigne du consulat celui qu'on juge digne de défendre d'anciens consuls. Puisque c'est sur ce mérite que tu t'appuies et qu'il t'a fait ce que tu es, au cours de chaque procès, il te faudra parler en homme conscient que c'est son talent dans son ensemble qui va être remis en question. Les ressources que tu t'es ménagées, je le sais très bien, dans cette technique, prends soin de les avoir toutes prêtes à ta portée. Veille ensuite à ce que l'on voit bien le nombre et la diversité de tes amis. Tu as pour toi en effet ce que bien peu d'hommes nouveaux ont eu. Tous les publicains, Lord équestre en quasi-totalité, de nombreux municipes solidement acquis à ta personne, les particuliers que tu as défendus, et dans tous les ordres, plusieurs collèges, la foule des jeunes gens qui te suivent pour apprendre l'éloquence, et un grand nombre d'amis attachés à tes pas. Tu es candidat au consulat. Et s'il n'est personne pour te juger indigne de cet honneur, ceux qui te jalousent sont nombreux. Appartenant à l'ordre équestre, tu es candidat au plus haut poste de l'État, poste qui, à un homme courageux, éloquent, intègre, peut apporter plus de prestige qu'à n'importe qui. Ne va pas t'imaginer que ceux qui ont connu cet honneur ne voient pas quelle considération, une fois que tu l'auras atteint, rejaillira sur toi. Quant à ceux qui, nés dans des familles consulaires, n'ont pas réussi aussi bien que leurs ancêtres, j'imagine, à moins qu'ils n'éprouvent une forte affection pour toi, qu'ils vont te jalouser. De même, les hommes nouveaux qui ont accédé à la préture, je sais bien qu'ils auront du mal à accepter de se voir supplantés dans la course aux honneurs, s'ils ne se sont pas attachés par des liens de reconnaissance. Envers les hommes nouveaux, on compte déjà beaucoup de jaloux dans le peuple, beaucoup d'hostilité à cause des habitudes de ces dernières années. Cela, je le sais que tu l'as à présent à l'esprit. Mais regarde autour de toi et demande-toi si le mal que tu t'es donné pour la gloire de Pompée t'a valu beaucoup d'amitié. Puisque tu vises le plus haut poste de l'État et que tu es conscient des ambitions qui contrarient les tiennes, il faut que tu fasses preuve de méthode. Il faut que tu fasses preuve de méthode, de soin et de vigilance dans ton activité. Quand on fait campagne pour un poste de magistrat, il faut s'assurer scrupuleusement de deux choses, le dévouement de ses amis et la sympathie populaire. Le dévouement des amis doit être le fruit des bienfaits, des services rendus, des bonnes relations, anciennes et familières. Mais il faut entendre cette notion d'amitié dans un sens plus large que dans la vie courante. En effet, quiconque montrera un tant soit peu de sympathie à ton égard, fréquentera ta maison, il faudra le compter au nombre de tes amis. Quant à ceux qui sont tes amis pour de plus authentiques raisons, tes parents, tes alliés, tes confrères, il importe avant tout de confirmer leur estime et leur affection. Que chacun de tes intimes, chaque homme de ta maison, t'aime et soit désireux de ta complète réussite, voilà ce à quoi il te faudra œuvrer essentiellement. Et il en est de même pour les gens de ta tribu, tes voisins, tes clients, tes affranchis et même, en fin de compte, tes esclaves. Ensuite, il faut se faire des amis dans toutes les catégories sociales. Pour l'apparence, des hommes qui comptent, honorés, connus et qui, même s'ils ne font aucune propagande, apportent du prestige aux candidats. Pour se concilier la justice, des magistrats, des consuls surtout, et aussi des tribuns de la plèbe. Enfin, pour s'assurer du vote des centuries, des hommes de grande influence. Mets-toi soigneusement en quête d'hommes qui te doivent ou espèrent te devoir une centurie ou je ne sais quelle autre faveur et fais-toi garantir leur appui. Ces dernières années, des ambitions ont travaillé sans relâche et de tous leurs ailes, de toute leur ardeur pour obtenir de leur tribu tout ce qu'ils demanderaient. À ton tour, travaille et use de tous les moyens pour que ces gens te soutiennent cœur et âme. Il existe trois choses pour forcer la sympathie et pousser les hommes à faire campagne. La reconnaissance pour service rendu, l'espérance et l'inclination naturelle. Il faut donc cerner les moyens susceptibles de faire naître chacun de ces sentiments. Les hommes trouvent dans les faveurs les plus intimes une raison suffisante pour faire campagne. À plus forte raison, comment ceux qui te doivent leur salut ne comprendraient-ils pas qu'à moins de s'acquitter aujourd'hui de leurs dettes, ils n'auront jamais plus l'estime de personne. Cependant, il faut les solliciter, les amener à l'idée que, si jusque-là ils sont restés nos obligés, nous pourrions bien devenir les leurs à notre tour. Quant à ceux que l'on tient par l'espérance, race plus ailée encore et de meilleurs services, veille à ce qu'ils aient l'impression que ton concours leur est d'ores et déjà acquis, et à ce qu'ils comprennent qu'en matière de service rendu, tu es un observateur diligent, que tu sais parfaitement discerner et reconnaître leurs qualités ainsi que leurs origines. Venons-en à la troisième catégorie, celle des dévouements spontanés. Il va falloir donner des bases solides en multipliant les témoignages de reconnaissance, en adaptant ton discours aux raisons pour lesquelles on a, selon toi, de la sympathie pour ta personne, en témoignant en retour une égale sympathie et en faisant espérer qu'une telle amitié pourrait déboucher sur des relations d'intimité. Dans les trois cas, juge, pèse les possibilités de chacun afin de savoir dans dans quelle mesure il le faut cultiver, ce que tu peux en attendre et en exiger. Il y a en effet des gens influents dans leur quartier ou leur municipe, des hommes actifs, aisés, qui même s'ils n'ont encore jamais tiré parti de cette influence, peuvent facilement et dans l'instant se mobiliser pour des hommes dont ils sont les obligés, ou envers qui ils sont bien disposés. Les hommes de ce type, il faut les cultiver de manière qu'ils comprennent que tu sais ce que tu peux attendre de chacun d'eux, que tu sais apprécier la valeur des services et que tu n'oublies jamais ce qui les ont rendus. En revanche, il en est d'autres, des incapables ou des gens détestés, même dans leur propre tribu, qui n'ont ni l'intelligence ni les capacités qu'il faut pour se mettre d'emblée à l'ouvrage. Cela, efforce-toi de les reconnaître et ne fonde pas sur eux des espoirs sans rapport avec l'appui qu'ils pourraient t'apporter. Bien sûr, on peut compter déjà sur les remparts des amitiés anciennes et sûr, mais pendant la campagne proprement dite, on peut en acquérir un grand nombre et de fort utiles. Au milieu des ennuis qu'elle apporte, une campagne présente au moins cet avantage, tu peux sans problème, chose impensable en temps ordinaire, te lier d'amitié avec qui bon te semble, avec des gens dont il paraîtrait absurde en d'autres moments de chercher le contact. Si au cours de la campagne, tu ne t'appliques pas à favoriser de tels contacts, et en grand nombre, tu passeras pour un candidat peu sérieux.
Thank you.
C'était Trichotomie de H. Turner et Fahrenheit 451, ça reprend maintenant. Fahrenheit 451, l'émission littéraire des livres qu'ils n'ont pas encore brûlés, tous les premiers vendredis de chaque mois sur microrebelle.fr. Puisqu'on en vient à évoquer les escortes, voici également ce à quoi tu dois veiller. Avoir tous les jours à tes côtés des hommes de toutes les catégories, de tous les ordres et de tous les âges. L'importance de cette troupe permettra de se faire une idée de ce que seront, sur le champ de Mars, tes forces, tes moyens. Distinguons là trois groupes d'hommes. Ceux qui viennent chez toi pour te saluer, ceux qui t'accompagnent au forum, ceux qui sont constamment attachés à tes pas. Au premier, l'espèce la plus commune, et vu les mœurs du temps la plus nombreuse, il faut s'efforcer de faire croire que leur démarche, aussi infime soit-elle, te touche profondément. Ceux qui viendront jusque chez toi, fais-leur savoir que tu en prends bonne note. Fais-le valoir devant leurs amis, qui le leur répéteront, et à eux-mêmes, redis-le souvent. En effet, quand des hommes qui visitent plusieurs candidats voient qu'il n'en est qu'un pour faire autant de cas de leur hommage, ils se donnent à lui et abandonnent les autres. Peu à peu, au lieu d'être à tout le monde, ils ne sont plus qu'à toi, et, de douteux qu'ils étaient, ils finissent par devenir d'authentiques partisans. Alors, fais attention à un point. Si tu entends dire qu'un homme qui t'a fait des promesses te jette, comme on dit, de la poudre aux yeux, ou si toi-même tu t'en rends compte, ne montre pas que tu en es informé et que tu sais à quoi t'en tenir. De même, si quelqu'un, se croyant soupçonné, veut se justifier, assure-lui que tu n'as jamais douté de lui et que tu n'as pas envie de le faire. Car on ne peut en aucune façon être un véritable ami si l'on ne pense pas donner entière satisfaction. En revanche, il faut connaître l'état d'esprit de chacun pour savoir dans quelle mesure on peut compter sur lui. Accompagner quelqu'un au forum constitue un hommage plus conséquent que le précédent. Montre et fais savoir qu'il t'est d'autant plus agréable et, si possible, descend à heure fixe. Quelle réputation, quel prestige, quand on voit ainsi une belle escorte vous suivre chaque jour au forum. Troisième groupe, les gens qui vous accompagnent partout, les volontaires. Veille à ce qu'ils soient persuadés que tu seras désormais et à jamais leur obligé. De ceux qui te doivent quelque chose, exige, comme un service et dans la mesure où leur âge et leur activité leur permettent, qu'ils ne te quittent pas d'une semelle ou sinon qu'ils envoient à leur place quelqu'un de leurs proches. Je tiens absolument à ce que tu sois toujours très entouré. C'est indispensable, j'en suis certain, pour notre entreprise. Quelle gloire enfin, quel honneur, si tu as à tes côtés tous ceux que tu as défendus, sauvés et libérés des charges qui pesaient sur eux. Puisque gratuitement, tu as pu conserver aux uns l'honneur, aux autres la vie avec l'intégralité de leurs biens, sans la moindre hésitation, tu peux leur demander ce service en paiement vu qu'ils n'auront jamais une telle occasion de te témoigner leur reconnaissance. Une fois assuré du dévouement de tes amis, observe à quelle catégorie de jaloux, à quels ennemis tu as affaire et dans quelle disposition ils sont. Il y en a de trois sortes, ceux que tu as offensés, ceux qui te détestent sans raison aucune, et les amis authentiques de tes concurrents. Ceux que tu as offensés en défendant contre eux un ami, présente-leur de réelles excuses en faisant ressortir les obligations auxquelles te liait l'amitié tout en leur laissant espérer que, s'ils deviennent tes amis, tu sauras prendre soin de leurs intérêts, dans les mêmes circonstances avec un égal dévouement. Quant à ceux qui te détestent sans motif, tâche de leur faire quitter d'aussi déplorables dispositions en leur rendant service, en leur fournissant des raisons d'espérer, ou en leur assurant de ton dévouement à leur endroit. Enfin, pour ceux qui nourrissent les sentiments les plus hostiles en raison des liens d'amitié qui les attachent à tes concurrents, use avec eux des méthodes précédentes. Et si tu peux leur faire admettre, montre-leur que tu n'as rien contre la personne même de tes concurrents. J'en ai assez dit sur la façon de créer des amitiés. Il me faut maintenant évoquer un autre aspect de la campagne, sa dimension populaire. Là, ce qui est indispensable, c'est de connaître le nom des électeurs, de savoir les flatter, d'être assidu auprès d'eux, de se montrer généreux, de soigner sa réputation et de susciter, pour la manière dont on conduira les affaires de l'État, de vifs espoirs. Fais montre des efforts que tu as accomplis. pour bien connaître les hommes. Étends tes compétences dans ce domaine et améliore-les tous les jours. Il n'est rien de plus populaire, je pense, rien qui fasse plus plaisir. Ensuite, mets-toi bien dans l'esprit qu'il va te falloir faire semblant d'accomplir avec naturel des choses qui ne sont pas dans ta nature. Certes, tu n'es pas dépourvu de cette courtoisie qui sied à l'homme de bien, à l'homme sociable, mais il te faudra y ajouter le sens de la flatterie, vice ignoble en toute autre circonstance, mais qui dans une campagne devient qualité indispensable. D'ailleurs, si elle est blâmable quand, à force d'approbation excessive, elle gâte quelqu'un, la flatterie est beaucoup moins critiquable quand elle renforce l'amitié. Et de toute façon, elle est obligatoire pour un candidat dont le front, le visage et les discours doivent changer et s'adapter selon les idées et les sentiments à l'interlocuteur du moment. Pour ce qui concerne l'assiduité, nul besoin de démonstration. L'assiduité ne porte vraiment ses fruits que lorsqu'on est à Rome, sans cesse sur le forum, et surtout quand on y fait continuellement campagne, quand on interpelle souvent les mêmes personnes, et qu'on fait tout pour éviter que quelqu'un puisse prétendre qu'il n'a jamais été sollicité, quand c'était possible, ni qu'il ne l'a été fortement et instamment. La générosité, quant à elle, est une notion large. Elle se mesure à l'aune de notre fortune personnelle. Si elle ne peut évidemment toucher le grand public, celui-ci l'aura bien en vue si nos amis en font éloge. Elle est mise en évidence au cours des banquets. Veillez à en offrir, toi et tes amis, quand l'occasion se présente, et dans chaque tribu. Elle peut apparaître aussi à travers ta sollicitude. Fais qu'on l'éprouve, qu'on la connaisse. Veille à ce qu'on puisse y avoir accès à toi jour et nuit. Que les portes de ta maison restent ouvertes, mais ouverts aussi ton visage et ta mine, qui sont les portes de ton cœur. Qu'importe que restent ouvertes les portes de ta demeure si ton visage et ton abord montrent une âme introvertie et repliée sur elle-même. Les hommes aiment qu'on leur fasse des promesses, mais ce qu'ils demandent d'abord à un candidat, c'est qu'il y mette générosité et déférence. Quand on fait des promesses, pareille échéance est incertaine, éloignée dans le temps, et elle ne concerne que peu de cas. En revanche, en refusant, on est sûr de se faire des ennemis, et en foule. On demande un service bien plus pour savoir si l'on peut compter sur quelqu'un que pour en user réellement. Donc, il vaut mieux accepter de subir, le cas échéant, quelques colères de ce type sur le forum, plutôt que d'essuyer chez soi et dans l'immédiat la colère générale. D'autant qu'on s'irrite bien plus de recevoir un refus que de voir un homme empêché de tenir sa promesse par une raison qui le laisse soucieux de s'en acquitter d'une manière ou d'une autre, dès qu'il pourra. En bonne logique, il faut évoquer maintenant un point fondamental, l'opinion publique. Mais tout ce qui a été exposé plus haut vaut également quand il s'agit d'asseoir une réputation. Gloire d'orateur, soutien des publicains et l'ordre équestre, sympathie de la noblesse, engouement des jeunes gens, assiduité des hommes que tu as défendus, présence d'une foule accourue, visiblement en ton honneur, depuis les municipes, et qui pensent et qui disent que tu connais bien les hommes, que tu leur parles aimablement, que tu ne cesses de solliciter leur vote, qui vantent ta courtoisie et ta générosité. Maison pleine avant le lever du jour, affluence à tes côtés, de citoyens de toute origine, tous satisfaits de tes propos et la plupart contents de tes services. Et tout le travail, l'ingéniosité, le soin possible pour que ta renommée n'ait pas seulement à travers ces hommes à parvenir jusqu'au peuple, mais pour que le peuple baigne dans cette ambiance de sympathie. Les masses urbaines, l'appui des hommes qui tiennent les assemblées populaires, voilà qui t'est acquis depuis que tu as fait rendre honneur à Pompée, depuis que tu t'es chargé de la cause de Manilius et que tu as défendu Cornelius. Il nous faut maintenant réactiver l'ensemble des choses dont nul n'est jamais disposé sans s'attirer, du même coup la faveur des hommes en vue. Il faut faire en sorte que personne n'ignore de quelle sympathie tu disposes auprès de Pompée et combien il est intéressé au succès de ton entreprise. Que ta campagne, enfin, fais-y attention, soit magnifique, brillante, éclatante, populaire. Qu'elle ait un décorum et une dignité d'exemple. Que ta campagne, enfin, fais-y attention, soit magnifique, brillante, éclatante, populaire. Qu'elle ait un décorum et une dignité exemplaire et que pèse sur tes concurrents, s'il est possible de trouver quelque chose, un soupçon d'infamie, crime d'ébauche ou corruption en accord avec leur caractère. Lors de cette campagne, il faudra bien veiller à ce que l'on ait bonne opinion de ta politique. Qu'on place en elle de sérieux espoirs, mais pendant qu'elle se déroulera, Tu dois t'abstenir de toute participation aux affaires de l'État, au Sénat ou à l'Assemblée du peuple. Et il faudra garder la tête froide afin que le Sénat voie en toi, pour l'avenir, le défenseur de son autorité, que tu as toujours été. Que les chevaliers romains, les hommes de bien et les riches t'estiment, vu ton passé, un fervent défenseur de la paix et de la tranquillité publique, et que la multitude, parce qu'elle est parole, et que la multitude, parce qu'en parole tu t'es montré populaire, à l'Assemblée et devant les tribunaux, pense que tu ne seras jamais hostile à ses intérêts. Voilà ce qui me vient à l'esprit à propos des deux pensées matinales que je te suggérais de méditer chaque jour en descendant au forum. Je suis un homme nouveau, je suis candidat au consulat, et il y en a une troisième, c'est de Rome qu'il s'agit. De cette ville faite d'un assemblage de nations, cette ville où de partout rugissent pièges, tromperies, vices en tout genre, où il faut supporter l'arrogance, l'audace, la malveillance, la superbe, la haine et l'insolence du grand nombre. J'imagine ce qu'il faut d'intelligence et d'habileté quand on vit parmi tous ces hommes accablés d'une telle somme de vices aussi divers, pour éviter l'hostilité, la calomnie, les embûches, et se montrer mieux que quiconque capable de s'adapter à une telle diversité de caractères et de discours et de sentiments. Eh bien, Fahrenheit 451 du mois de mars touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la thématique politique. Hein. Je vous rappelle que pour le mois de mars et le mois d'avril, Fahrenheit 451 va couvrir l'actualité des élections présidentielles, mais vue du point de vue de la littérature, avec une émission en deux parties qui s'intitule « C'est politique ». Les amateurs de jeux de mots auront deviné. Alors pour celles et ceux qui arrivent à la fin de l'émission et pour celles et ceux qui ne se rappellent pas de quel ouvrage j'ai parlé dans cette émission, c'est un livre qui s'intitule « Petit manuel de campagne électorale » écrit par Quintus Cicéron, le frère cadet de Marcus Tullius Cicéron, le fameux orateur romain. Alors, « Petit manuel de campagne électorale », c'est une lettre que Quintus écrit à son frère Cicéron, Marcus, dans laquelle il lui expose les différents moyens de remporter une élection. Comme cela se passe à Rome, c'était pour l'élection de la place de consul. Alors, sur Micro Rebelle, on défend les musiques libres et Fahrenheit 451 n'échappe pas à cette règle. Vous avez écouté un morceau d'un jazzman australien, Ash Turner, et le morceau c'était Trichotomy, tiré de son album Beautiful of Spaces, pour un trio, puisqu'il a fait aussi ce même album pour un quintet. Et on va se quitter avec un autre morceau de cet album de Ash Turner, le morceau c'est St. Columba's Twist. Le générique, c'est un extrait du morceau Genuin, du groupe suisse Massico, tiré de l'album Morse. Et bien voilà, moi je vous retrouve pour le premier vendredi du mois d'avril pour une nouvelle émission de Fahrenheit 451. D'ici là, portez-vous bien. Moi je vous retrouve le mois prochain. Lisez bien. Ciao! Thank you.
Thank you.